dessous de l'infox. Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous. Démêler le vrai du faux toutes les semaines sur Radio France Internationale. Comprendre la fabrique d'une fausse information. Bienvenue à tous dans les dessous de l'infox.
RFI.
Avec au sommaire de ce vendredi 25 mars, quand la télévision nationale malienne présente une fausse information, l'ORTM annonce un soutien de Kamala Harris, la vice-présidente américaine au peuple malien. Une infox débusquée par Valdez Onanina du site Africa Check. Dans la chronique des dessous de l'infox cette semaine, Sophie Malibaud, quel est le sujet?
Alors on va parler de la présidentielle française et de ces infox qui déboulent sur les réseaux sociaux et qui portent atteinte à l'intégrité du scrutin.
L'élection présidentielle française, nous sommes à 16 jours du premier tour et nous poursuivrons la discussion avec notre invité Thomas Huchon, journaliste d'investigation, pour tenter de comprendre si l'ombre russe plane sur ce scrutin. Les dessous de l'infox, réalisé par Claude Battista. Nous sommes à présent au Sénégal, à Dakar, avec Valdez Onanina, rédacteur en chef adjoint du site francophone Africa Check. Bonjour Valdez.
Bonjour Adrien.
Aujourd'hui, vous évoquez avec nous un article réalisé par Africa Check au sujet de l'ORTM. L'ORTM, c'est la chaîne nationale du Mali. Cette chaîne a récemment publié une fausse information en annonçant un soutien, celui de la vice-présidente américaine Kamala Harris, au peuple malien.
Oui, c'est ça. Dans son journal télévisé du 22 février 2022, l'Office de radio et télévision du Mali, l'ORTM, indique que Kamala Harris a apporté son soutien au peuple malien au cours d'une interview. Et pour appuyer son information, la chaîne a même diffusé une vidéo de la vice-présidente des États-Unis. Je vous propose d'écouter cet extrait du journal de l'ORTM qui est encore disponible sur le compte YouTube de la chaîne.
Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, apporte son soutien au peuple malien. Dans une interview et en référence à la situation malienne, elle estime que les populations ont le droit de choisir leur propre forme de gouvernance et les nations ont le droit de choisir leur alliance. Je vous propose de l'écouter.
Que les gouvernements se doivent de protéger, l'état de droit doit être chéri, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États doivent être respectées. Les populations ont le droit de choisir leur propre forme de gouvernement, que les nations ont le droit de choisir leurs alliances. Il y a des droits inaliénables.
Alors Valdez, ce qui est intéressant, c'est que dans l'extrait que nous venons d'écouter, Kamala Harris ne prononce pas ou ne fait pas allusion au Mali ou à la population malienne.
Effectivement, c'est la première chose qu'on constate quand on écoute attentivement cet extrait. Et de plus, Africa Check a retrouvé l'allocution complète et originale de la vice-présidente américaine dont un extrait a été diffusé par l'ORTM dans son JT. Kamala Harris s'exprimait en fait le 19 février 2022 lors de la Munich Security Conference en Allemagne. C'est un forum annuel qui est consacré aux questions de sécurité internationale qui s'est tenu du 18 au 20 février 2022. Kamala Harris s'exprimait sur la situation sécuritaire en Europe et plus précisément sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. Dans son allocution que nous avons écoutée de bout en bout, la dirigeante américaine, une fois encore, n'a pas fait référence au peuple malien, bien qu'elle a récemment insisté sur la position de son pays, qui est très claire en ce qui concerne le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États.
Et vous concluez donc que par conséquent, l'information diffusée par l'ORTM dans son JT du 22 février 2022 est fausse. Kamala Harris n'a pas apporté un soutien officiel au peuple malien.
En effet, Adrien.
Merci Valdez Onanina à Dakar. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint du site francophone d'Africa Check et que cet article est disponible sur votre site internet africacheck.org.
Merci, merci aux auditeurs de RFI et à la prochaine.
Place à présent à la chronique des dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, bonsoir.
Bonsoir.
Grégory Genevrier, bonsoir.
Bonsoir.
à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle française. Une opération de désinformation tente d'entacher la légitimité du scrutin. Premier tour 10 avril, deuxième tour 24 avril. Profitant d'un contexte de campagne perturbé par la guerre en Ukraine, les Infox dénoncent par avance une élection truquée sur le modèle de ce qu'il s'est déjà passé aux États-Unis en 2020, Grégory.
Oui, les arguments sont les mêmes. Cette campagne de désinformation colle au narratif employé en amont de l'élection de Joe Biden. D'après les échanges que l'on observe sur les réseaux sociaux, les résultats du scrutin seraient truqués via l'utilisation d'un logiciel informatique qui serait intégré dans les machines à voter ou encore dans les ordinateurs qui collectent les votes. La technologie ciblée est la même que celle employée par l'entreprise Dominion aux États-Unis. Certains affirment que le décompte des voix en France serait donc confié à cette société et c'est comme ça que le président sortant pourrait s'assurer de la reconduction de son mandat.
Mais tout est faux, Grégory, dans ces affirmations.
Oui, exactement. Cette théorie, elle ne repose sur aucun élément factuel, car aucun contrat n'a été signé entre Dominion et l'État français. La société nous l'a confirmé par écrit. De son côté, le ministère de l'Intérieur affirme, lui, n'avoir jamais fait appel au service de Dominion dans le cadre de l'organisation des élections. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la centralisation des résultats, elle passe par un système informatique développé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le logiciel ne dépend donc pas de Dominion, ni d'aucun autre prestataire. Quant à Dominion aux États-Unis, il faut rappeler que les allégations de fraude se sont toutes révélées fausses.
Et pourtant, Sophie Malibaud, cette infox circule. Alors comment se propage-t-elle ?
Alors oui, ça circule. Et ça se propage avec le hashtag Dominion, au point que Twitter le met en tendance en début de semaine, grâce notamment à une série de citations évoquant un scrutin manipulé par toutes sortes de fraudes. Des propos mis dans la bouche de personnalités aussi diverses que les présidents de Malte, du Mexique, du Honduras, du Brésil, des membres du gouvernement russe, un premier ministre norvégien, un économiste haïtien, etc. Or, vérification faite, aucune de ces personnalités n'ont prononcé de telles paroles visant le processus électoral en France.
Et qui est à la manœuvre derrière ces opérations de désinformation ?
Alors, ce sont en majorité des comptes de la sphère complotiste et des soutiens de candidats des extrêmes droite et gauche. Tendance mise en évidence par le politoscope, un outil développé par David Chavalerias du CNRS pour mesurer comment les réseaux nous manipulent. Certains soutiens du parti Reconquête d'Éric Zemmour y participent, avec par exemple cette vidéo publiée sur Facebook dénonçant un pseudo-complot pour la réélection automatique d'Emmanuel Macron. Parmi les internautes qui diffusent ces infox, certains relayent des initiatives pour assurer un contrôle citoyen des résultats avec, à la clé, une incitation à l'insurrection qui n'est pas sans rappeler la méthode employée par les partisans de Donald Trump.
Et enfin, Grégory, connaît-on l'importance de ce phénomène ?
Alors pour l'instant, la diffusion de cette théorie reste circonscrite à des sphères bien identifiées, mais rien ne nous dit que ces infox ne vont pas s'intensifier à l'approche du scrutin, comme ça a été le cas par exemple aux États-Unis. Ce narratif, il vise surtout à semer les graines d'une future contestation des résultats, et cela s'inscrit dans une dynamique au final plus large de remise en cause de la démocratie et de son fonctionnement.
C'était Grégory Genevrier, Sophie Malibaud pour la chronique des Dessous de l'Infox. Dans les Dessous de l'Infox, intéressons-nous à présent au risque d'ingérence russe dans la présidentielle française. Le système démocratique français peut-il être la cible de Vladimir Poutine ? Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les cyberattaques menées par la Russie se multiplient. Par le passé, il a été prouvé que la Russie était à l'origine d'une ingérence dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Elle a également tenté d'influencer l'élection présidentielle française de 2017 ou encore le référendum britannique de 2016 sur le Brexit. Et cette année, pour la présidentielle française, eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Thomas Huchon, journaliste d'investigation spécialisé dans les théories complotistes et les fausses informations.
Les Dessous de l'Infox.
Première question, Thomas Huchon. Avez-vous observé, à quelques jours de l'élection présidentielle en France, l'influence russe sur ce scrutin ?
Alors, on voit, sans pouvoir totalement l'expliquer, qu'il y a une forme de continuum entre tout un tas de gens sur les réseaux qui étaient des gilets jaunes en 2018, qui sont devenus des antivax en 2020 et qui, depuis le début de l'année 2022, sont devenus des pro-Poutine. Et ça, sans être la preuve qu'il y a une forme d'opération pour diffuser ces messages, ça montre que la propagande diffusée par les Russes, relayée par les grands médias qu'ils avaient créés et qui sont depuis suspendus, eh bien, elle a un impact sur les sociétés. Avec deux idées. La première idée, c'est souvent d'installer une forme de mensonge dans l'actualité. Ça, c'est un peu la stratégie qui avait été utilisée en 2016 pour les élections américaines, qui a été utilisée en 2017 lors des élections françaises. Hein, on a vu ce genre de choses-là. Aujourd'hui, les observateurs, les spécialistes de tout cela nous disent qu'il y a une autre méthode qui est plutôt que de diffuser une info mensongère, de diffuser 25 infos complètement bordélisantes. Et que cette espèce de masse d'informations perturbantes sur les réseaux, relayées par des gens qui finalement sont pas toujours ce qu'on attend, qui sont pas toujours liés à ces mouvements et tout, eh bien ça crée une espèce de bordel dans l'information. Et je crois que on est obligé de constater que tout ça prend. Et on a aujourd'hui, y compris des vedettes, des stars de la musique, je pense au rappeur Booba, qui est devenu l'un des principaux relais de la propagande russe sur les réseaux. Le problème c'est quoi? C'est que Booba, il a 6 millions de followers sur les réseaux, principalement des jeunes, en tout cas des personnes qui ont moins de 40 ans, et que tout ça a beaucoup d'influence.
Alors justement, cette influence pourrait passer par quel vecteur aujourd'hui, eu égard à la diversité que l'on trouve sur les réseaux sociaux, ou autres d'ailleurs?
Aujourd'hui, il y a grosso modo trois canaux de diffusion de cette propagande. Il y a en gros les canaux officiels, donc les chaînes d'information russes, les médias russes et tous ceux qui, dans les médias professionnels, relaient tout cela. Il suffit de constater, depuis le début de la guerre en Ukraine, eh bien, le nombre d'éléments vidéo issus de médias français qui sont poussés par les comptes Twitter des ambassades russes en France ou dans d'autres pays. On voit bien que Russia Today et Sputnik ont été fermés, mais que depuis, ces ambassades poussent des contenus produits par CNews, par Sud Radio et ou des contenus sur Internet. Donc ça, le premier truc, ça va être un peu une communication assez officielle, hein, grosso modo, et qu'on va retrouver. La deuxième chose, eh bien, c'est tout un tas de relais idéologiques qui ont leur propre chaîne YouTube, qui ont leur page sur Facebook, qui ont des comptes Twitter qui sont très suivis. Tous ces gens-là, eh bien, ils vont diffuser ces éléments. Et là, ce sont, entre guillemets, des Français qui parlent aux Français. Donc ce sont des gens qui sont peut-être sincères d'ailleurs dans leur soutien à Vladimir Poutine, mais qui relaient du coup, qui se font, certains les qualifient d'idiots utiles, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas on constate bien qu'ils se font les relais de tout cela et que ça redonne de l'ampleur. Et le troisième élément, c'est un peu une nouvelle manière de diffuser des fausses informations, ou des informations tout court, mais le plus souvent elles sont fausses, c'est de passer non plus par les réseaux sociaux traditionnels, mais par les messageries privées. Et notamment, le principal vecteur de fausses informations aujourd'hui, c'est Telegram. Telegram qui est à la base une application de messagerie cryptée qui permet d'échanger avec une personne ou des groupes de personnes et qui est devenu depuis le relais, eh bien, de tous les anti-vax, des mouvements QAnon, des mouvements de défiance, de tout un tas de mouvements type post-gilets jaunes un peu décomposés, et sur lesquels on va retrouver pas quelques centaines de bonhommes. Hein. Si vous prenez les principales boucles anti-vax, c'est 100 000, 120 000, 150 000 personnes qui suivent et qui reçoivent exactement les informations qu'on ne trouve plus ou peu sur les réseaux sociaux, qui ont quand même malgré tout fait un peu de ménage depuis 2-3 ans, notamment sur les questions sanitaires, mais on retrouve justement tous ces contenus. Et ces contenus, eh bien, ils sont poussés sur des chaînes Telegram. Et de ces chaînes Telegram, eh bien, ils sont remis dans le flux d'informations traditionnelles sur les réseaux sociaux traditionnels. Et donc, du coup, eh bien, ça crée une espèce de cercle vertueux du vice, un petit peu. Et ça donne une ampleur dément. Et donc, ça crée une espèce de disruption. Et ça a beaucoup d'effets.
L'avènement aussi peut-être de TikTok dans cette campagne présidentielle française?
Alors, effectivement, il y a un nouveau réseau social qui est devenu un peu un agrégateur de contenu. C'est un réseau social d'origine chinoise qui s'appelle TikTok. TikTok, c'est près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est 15 millions en France. Sur ces 15 millions, 40% ont moins de 17 ans. Ça veut dire que nous avons, grosso modo, 4 millions de jeunes qui sont sur TikTok. Ça nous dit aussi qu'il y a 11 millions de personnes sur TikTok qui vont voter lors de la prochaine présidentielle. Et TikTok, c'est un peu un agrégateur de contenu. On retrouve des contenus issus de la télévision qui ne sont pas censurés comme ils pouvaient l'être pour des raisons de droits d'auteur sur YouTube. On retrouve des contenus fabriqués pour TikTok et on retrouve des contenus qui sont issus d'Instagram, de Facebook, de YouTube et qui se retrouvent sur cette plateforme dans lesquelles ça donne un nouvel écho. Et de cette plateforme, eh bien, ça retourne encore une fois un petit peu la même logique qu'avec Telegram dans les réseaux traditionnels pour créer une espèce de boule qu'on n'arrive pas à arrêter. Sur TikTok, Franchement, moi qui suis quand même assez habitué à voir des horreurs sur Internet, hein, ça fait 8 ans que j'habite dans les égouts d'Internet et que je les fouille pour mon travail. Franchement, ce que je vois là-dessus me remet très loin en arrière. Et ce qu'on voit sur TikTok, c'est pire que tout ce que j'ai vu auparavant. On revoit d'ailleurs des figures anciennes de la complosphère qui n'avaient plus vraiment pignon sur rue, hein, ceux du milieu des années 2010. Je pense à, bien sûr à Soral, Dieudonné, Thierry Messant, même Kémy Séba, tout un tas de personnages qui avaient un peu disparu des réseaux sociaux traditionnels. Bah, ils sont de retour aujourd'hui sur TikTok. On a un vrai problème parce que on n'a pas d'emprise sur ce réseau et on n'arrive pas du tout à faire en sorte qu'il y ait une forme de modération qui s'installe. On avait déjà un problème avec les réseaux sociaux traditionnels. Là, ça devient quelque chose de terriblement addictif parce que dans la pratique, TikTok est beaucoup plus addictif que les autres. C'est une espèce de flot continu de vidéos et on passe de l'une à l'autre en un simple mouvement du pouce, hein, ce fameux swipe. Et du coup, c'est encore plus entraînant, entêtant et captivant que le YouTube où vous aviez 10 secondes pour aller jusqu'à la vidéo suivante qui vous était recommandée par l'algorithme. Là, c'est instantané. Et quand vous êtes pris là-dedans, eh bien, ça devient presque impossible de s'en extraire avec les conséquences terribles que ça peut avoir.
Enfin, si les autorités russes manipulent l'élection présidentielle française, est-ce au profit de Marine Le Pen ou alors d'autres candidats ?
Ce qui est certain, c'est que on voit aujourd'hui qu'il y a une proximité dans les paroles tenues entre Éric Zemmour et la propagande russe. On sait que le Rassemblement National a reçu un certain nombre de financements de la part de banques russes. Alors, ce parti explique que c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver de financement en France. C'est peut-être vrai, mais encore une fois, il faudrait vraiment le vérifier, être capable de le vérifier. Mais là, dans cette période, on voit bien que les autorités russes financent d'une manière très générale et poussent d'une manière très générale les contenus d'extrême droite. C'est d'ailleurs un peu le paradoxe hein, de cette justification de la guerre en Ukraine qui est supposée chasser des nazis drogués cachés à Kiev quand on est soi-même le principal financeur et artificier de l'extrême droite européenne depuis 10 ans. Du Rassemblement National à des groupuscules beaucoup plus minoritaires et beaucoup plus inquiétants d'ailleurs parce qu'ils sont souvent très violents. Je crois qu'il y a un vrai truc qui s'instaure et qui est pas tant basé sur la géopolitique que sur une vision du monde et une vision de la société. Quelque part, le point commun entre la vision poutinienne et zémourienne du monde, bah c'est bien sûr le grand remplacement, la peur de l'islam comme une espèce de force maléfique permanente, mais c'est aussi le virilisme. C'est aussi une vision du rapport homme-femme dans lequel, eh ben effectivement, oui, on retrouve beaucoup de choses. C'est plus difficile de le retrouver en ce moment au Rassemblement National parce que leur candidat est une candidate. Mais il n'empêche que cette vision existe et qu'on sait qu'il y a eu des contacts très fréquents à la fois avec les différents partis d'extrême droite français et les gens qui sont autour de Vladimir Poutine. Je pense à Prigogine, qui est l'homme qui dirige l'Internet Research Agency, qui est la ferme de trolls de Poutine à Saint-Pétersbourg, mais aussi tout ce qui se passe notamment en Afrique, avec le groupe Wagner, vous savez, ces mercenaires qui sont financés par l'État russe pour bordéliser la situation en Afrique et surtout décrédibiliser l'action de la France. Quoi qu'on en pense, je pense que c'est aux habitants de ces pays de décider eux-mêmes de leur rapport à la France et pas de subir les influences des Russes ou même encore des Chinois, puisqu'on voit que dans cette danse, ce n'est plus un tango, mais ça devient une espèce de farandole, tant on voit s'agglutiner derrière l'étendard russe tout un tas d'autres gens qui participent à cette opération de désinformation qui est quasiment permanente et qui existe aussi parce que tout ça se diffuse sur des réseaux qui ne sont pas régulés, qui ne sont pas modérés et qui ont, à mon sens, une grande responsabilité. Il ne faut pas oublier quelque chose. Hein. En 2016, aux États-Unis, les agents de la propagande russe avaient réussi à financer tout un tas de publicités sur Facebook afin de cibler des électeurs américains. Facebook s'en est rendu compte parce que les publicités politiques payées par les Russes n'étaient pas payées en dollars, mais en roubles. Ce qui veut dire que Facebook permettait de payer des publicités politiques aux États-Unis sur l'élection présidentielle en roubles. Je pense que nous avons un énorme problème.
C'est la fin de l'émission Les Dessous de l'Infox. Merci à Thomas Huchon, journaliste d'investigation, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions First intitulé Anti-Fake News, une émission à retrouver et à partager grâce à nos applications et sites internet. Merci à Florence Ponce pour la coordination, Emmanuel Sevin pour la documentation. Quant à moi, Adrien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro des Dessous de l'Infox.